Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Ça manque pas d'air. Nous sommes ensemble pour une demi-heure pour débattre sur la recherche en éducation avec celles et ceux qui la font.
Après avoir évoqué la question du bien-être en septembre et les effets de la crise sanitaire sur l'école en octobre, nous poursuivons notre réflexion en abordant celle des émotions à l'occasion de la publication de la sociologie des émotions par nos deux invités, Christine Détré et Kevin. Depuis le XVIIIe siècle, et en particulier depuis Condorcet, l'éducation et l'instruction publique sont pensées à travers la rationalité, partant du principe que la transmission des savoirs, nécessaire à la formation des citoyens, repose sur la mise à l'écart des affects et des émotions. On pourrait ainsi penser que l'école fonctionne à travers une raison universelle qui rejette tout archaïsme émotionnel, notamment celle dont seraient porteuses les familles. Mais, et on l'évoquera certainement avec nos deux invités, cette opposition a-t-elle vraiment du sens? Peut-on se contenter de dire qu'il suffit à un enseignant d'énoncer un discours, aussi rationnel qu'il soit, pour que les savoirs soient transmis et acquis par les élèves? Ne doit-on pas tenir compte d'autres facteurs, et par exemple les conditions qui peuvent perturber les interactions et donc empêcher certains d'accéder à ces savoirs? D'autant que l'école, comme la classe, sont des espaces denses en interaction sociale et donc en émotion. Et à ce titre, Pierre Bourdieu avait déjà montré dans la distinction comment l'école privilégiait les élèves capables d'une certaine posture émotionnelle dans l'école au détriment des autres. D'un autre côté, il faut tout autant se méfier de toutes les formes de séduction ou de manipulation et de toutes les opérations de captation par le biais émotionnel. L'usage intensif des réseaux sociaux, par exemple, peut entraîner des réactions épidermiques et des bulles d'émotions qui s'entrechoquent, avec en conséquence une polarisation qui repose en partie, comme le souligne l'économiste Michael Lévé, sur un discernement altéré qui refuse toute forme d'incertitude et donc d'apprentissage. Car finalement, l'éducation n'aurait-elle pas comme objectif d'amener les élèves à sortir de leurs certitudes et d'accepter donc ces incertitudes qui les amènent à réfléchir, à apprendre, mais aussi à chercher? Pour aborder cette problématique riche, nous avons le plaisir donc de recevoir ces deux auteurs du livre publié récemment chez Armand Collin, La sociologie des émotions, à commencer par Christine Détré, bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes professeur de sociologie à l'ENS de Lyon et membre du centre Max Weber, et on vous doit en 2024, avant cet ouvrage, Crush, fragment du discours amoureux chez Flammarion. Et on reçoit également donc Kevin Mitter, bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes maître de conférence en sociologie à l'Université de Lille et chercheur au Centre Lillois d'études et de recherches sociologiques et économiques. Et donc vous avez coordonné l'ouvrage dont nous avions parlé en septembre, coordonné donc par vous et Claude Martin, qui s'appelle donc « Le bien-être à l'école, un problème social », qui va paraître en français dans les jours qui viennent. Et on écoutera au cours de cette émission la chronique d'Héloïse Marguerite, étudiante à l'ENS de Lille.
Ça manque pas d'air, avec Régis Guyon.
En fait, on a toujours tendance, c'est pour ça que la plupart des gens sont surpris quand on leur dit qu'on travaille sur l'histoire des émotions, l'émotion, qu'est-ce qu'il y a de plus subjectif, de plus individuel, de plus singulier que l'émotion. On ne voit pas à quel point, en fait, nos émotions sont façonnées socialement, culturellement. Quand on est enfant, hein, en fait, on intériorise code culturel de l'émotion, par exemple. Enfin, d'abord, nos sens sont éduqués, hein, à l'école, dans le cadre de la famille, et puis nos émotions elles-mêmes sont façonnées. On apprend à rire et à pleurer comme les gens de notre groupe, hein, et donc, voilà, il y a une marque de la société très forte sur des choses qui paraissent a priori très intimes, très singulières, un façonnement social, culturel de tous les affects. Hein. Et du coup, ça veut dire que, d'un point de vue historique, ça veut dire que certaines émotions peuvent disparaître, hein, comme d'autres peuvent émerger à certaines époques. Hein, voilà, les émotions ont une histoire, ça ne va pas de soi, c'est presque un peu contre-intuitif.
Alors, on vient d'entendre Hervé Mesurel, qui est un historien qui travaille sur la psychanalyse, hein, qui avait sorti donc il y a quelques années L'inconscient ou l'oubli de l'histoire, comme si l'histoire ou cette discipline de la psychanalyse n'avait pas d'histoire ou refusait qu'on lui raconte cette histoire-là. Donc, je trouve que ça fait assez écho à votre travail de sociologue et non pas d'historien, d'historienne. Et puis, il pose bien cette histoire du singulier et la difficulté de sortir de cette question de la singularité et de l'individu pour penser, parce que le sociologue pense global et collectif. Alors, comment vous situez-vous, Christine Détré, par rapport à cette approche proposée par Hervé Mesurel?
Ben, je pense que moi, d'un point de vue individuel, en tout cas dans la rédaction du livre et dans tout le travail qu'on a eu en amont pour ce livre, on est en plein dans cette direction-là. Alors, Hervé Mesurel, il a publié aussi récemment un livre avec Alain Corbin qui est « Histoire des sensibilités ». Et il fait partie de tout ce groupe de jeunes historiens et historiennes, voilà, la jeune génération, avec Clémentine Vidal-Naquet, Quentin Delurmeuse, et puis Hervé Mazurel, qui travaillent sur ces histoires des sensibilités dans la lignée de Corbin et dans la lignée de ce que disait Lucien Febvre, qui était un historien aussi et qui appelait à une histoire des émotions. Et quand je disais, notre livre s'inscrit vraiment dans cette même problématique, c'est effectivement partir de sa sens commun, mais voilà, qui est vraiment une démarche que moi j'ai toujours adopté dans mes travaux précédents sur le corps, sur le goût, sur la culture, de se demander si ce qui nous semble ou ce qui nous est présenté comme évident, comme naturel, est aussi naturel qu'il pourrait le sembler. Et les émotions, c'est un exemple type de ça, où on a l'impression que c'est de l'intime, c'est de l'individuel, c'est du hyper personnel. Et comme ce qui se fait en histoire, comme ce qui se fait aussi en anthropologie, ben nous, avec Kevin, on a voulu rassembler des travaux en sociologie qui montrent aussi que c'est effectivement, c'est de l'intime, c'est de l'individuel, c'est du sensible, mais c'est un nœud, en fait, où on peut attraper, justement, bah, les représentations, la construction historique et puis sociale. Alors voilà, pour le dire très vite.
Et le livre, je faisais référence à Pierre Bourdieu en ouverture, mais c'est aussi comment ça se construit dans la socialisation et comment il y a des normes, en fait, qu'on adopte. Voilà, quand il parlait de la distinction de ceux qui correspondent à des normes, et parce qu'ils savent gérer d'une certaine manière les émotions. Et d'autre part, Kéline, dites-leur, vous qui avez étudié aussi les plus jeunes, est-ce que cette histoire de la sociologie, comment vous situez dans cette appropriation de cette question des émotions dans votre travail de chercheur?
Comme Christine le disait, en fait, ce qui nous intéressait aussi, en fait, ce qu'ils ont réussi à démontrer, c'est le caractère éminemment culturel des émotions, en voulant un peu renverser la tendance qu'avaient et qu'ont encore aujourd'hui les sciences cognitives, voire la philosophie à les naturaliser. Et donc, on voulait, il et elle voulaient montrer ce caractère éminemment social et culturel. Donc, après, l'apport qu'on peut avoir en sociologie par rapport à nos collègues historiens, ce serait, en fait, on s'inscrit très clairement dans leur lignée, mais ce serait plutôt pour montrer comment qu'est-ce que pouvait appeler Gordon de la culture émotionnelle propre à un milieu social. Et c'est-à-dire que nous, au lieu de faire des évolutions historiques, en fait, on essaye de montrer des différenciations sociales à l'intérieur d'un même groupe à un temps donné, à un moment donné de l'histoire. Et en fait, on essaye de montrer comment les personnes définissent les sentiments appropriés à une situation, et comment ce qui est défini et pensé comme, et perçu comme approprié, varie en fonction du genre, du milieu social, mais aussi des origines ethno-raciales, etc. Et donc, nous, on essaye aussi, et avec les enquêtes que j'ai pu mener en collaboration avec Dylan Leroy, Amélia Legave, on regardait vraiment cette culture émotionnelle-là et la socialisation aux émotions chez les tout-petits, en montrant toutes les pratiques des adultes, notamment quand il s'agit de définir ou de faire apprendre à reconnaître les émotions aux enfants. Quoi. Et bon, là, c'est pas très podcast, mais en fait, on les apprend à, quand ils sont surpris, c'est « Oh, mon Dieu !» Enfin, donc, avec les mains autour de la bouche et les yeux écarquillés, quand ils sont pas contents, c'est « Ils boutent comme ça !» Enfin, voilà, etc. Et on montre comment...
Ça passe beaucoup par le corps, du coup, par des gestes et par le corps.
Ouais, et par la définition aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, les enfants aussi, pour qu'ils reconnaissent les émotions, en fait, c'est les adultes qui labellisent les émotions pour eux. Ils ressentent quelque chose, mais au début, ils ne savent pas. Et en fait, il y a tout dans la socialisation aux émotions, ce qui a aussi été pas mal abordé par les sociologues plutôt linguistes, c'était aussi ce langage-là. Et d'autres sociologues montraient qu'en fait, on apprend, enfin, les émotions se créent en partie du langage. Et on citait un moment des collègues qui montraient un sentiment particulier pour des personnes qui étaient dans des unions libres à plusieurs, c'est-à-dire c'est l'amour pour la personne que l'autre personne aime, quoi. De se sentir heureux pour lui, ça a un nom. Alors, je me souviens plus exactement comment il l'avait appelé, mais c'était cette émotion-là particulière mais il montrait justement l'importance du langage et comment on apprend en fait à ressentir à partir aussi des mots et des techniques du corps, etc. Quoi.
Voilà, et vous écrivez parce qu'il y a toute une partie, je ne sais plus, au milieu du livre, mais sans mots, sans concept, il est impossible d'éprouver des émotions, de leur attribuer un sens, une cause, un objet, une finalité. Et donc, vous faites référence à la chercheuse linguiste Lisa Feldman-Barrett, qui pose cette question du langage, justement, dans la problématique. Mais je voulais juste revenir sur cette question de la sociologie, puisque c'est le chapitre 2 dans mon souvenir qui porte sur une espèce de timidité ou de réserve de la sociologie française d'aborder ces questions-là, peut-être moins ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à d'autres disciplines, telle l'histoire. Comment on peut expliquer cette réserve, parce que je crois que c'est le titre du chapitre lui-même, la réserve de vos collègues, parce que vous, je pense que vous n'êtes pas concerné, mais de vos collègues à l'égard de cette question-là, Christine Détré.
Oui, alors nos collègues, bon, il faut quand même partir en collègues des générations précédentes.
Un peu loin peut-être, oui, bien sûr.
Siècle précédent. Alors, c'est compliqué à expliquer de façon catégorique. Et déjà, ce qui était important pour nous, c'était de parler de réserve et non pas d'oubli ou de méconnaissance totale. Parce que, voilà, il y a parfois tendance, alors en plus en parlant, enfin souvent en sociologie, on a des tournants de tout. Il y a le tournant matériel, il y a le tournant émotionnel, il y a le tournant, voilà, on a beaucoup de tournants. Et quand on fait les tournants, et en sociologie du genre, c'est aussi quelque chose qui est très, 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 très aigu, on a parfois tendance à oublier ce qui a pu exister avant, en fait. Donc, pour nous, c'était déjà très important de dire que ce n'est pas un oubli, en fait, par nos prédécesseurs, nos précurseurs, voilà, les grands-pères de la sociologie. Alors, malheureusement, il y a eu peu de mères reconnues de la sociologie, mais en tout cas, c'est grands-pères de la sociologie. Donc, ce n'est pas un oubli.
Oui, parce qu'on peut faire référence à Durkheim, à Weber,
voilà,
à Norbert Elias.
Voilà, il y a de l'émotion. Et voilà, chez Durkheim, il y a de l'émotion. Il y a l'émotion autour du deuil. Chez Marcel Mauss, bien évidemment, il y a ce fameux article « Expression obligatoire des sentiments ». Mais ce qu'on voulait montrer, Alvax, etc. Mais ce qu'on voulait montrer, c'est que, disons, ou Max Weber, hein, bien évidemment, là aussi, il y a de l'émotion, mais ce n'est pas central, ce n'est pas l'objet même, l'objet central de leurs travaux, en fait. Alors, pourquoi, moi, une des hypothèses qu'on a, et puis Kevin, il pourra bien évidemment développer, c'est qu'à un moment, il faut aussi affirmer une place, hein, si on prend la façon de raisonner bourdieusienne, sa place dans le champ, quelque part. Et au temps de Durkheim, il faut affirmer la légitimité d'une discipline, et il faut l'affirmer face à deux mastodontes que sont la littérature d'un côté, et puis les sciences. Et on dirait aujourd'hui expérimental et exact, les SE. Mais voilà, les sciences dures, entre guillemets, qui existent. Donc, en reprenant, si on essaye de retrouver, enfin voilà, de regarder comment la sociologie fait sa place entre ces deux mastodontes et comment elle va essayer de créer une troisième culture, et donc notamment ce qu'a montré Le Pénis dans son livre, bah, la sociologie, elle va s'écarter des émotions et ne pas en faire son objet de recherche centrale.
Donc, ça veut dire que pour être légitime, il faut avoir une approche rationnelle, ce que j'essayais de dire au tout début, et d'évacuer finalement ce qui pourrait être de l'ordre de quelque chose de mou, de flou ou de pas rigoureux.
De trop littéraire.
Et de trop littéraire, voilà. Parce que ça, vous parlez de tout ce qui est la biologisation, les neurosciences, etc. Vous parlez de l'autre pôle, j'allais dire, qui est celui de la littérature, où là, j'allais dire, les affects, voilà, l'auteur entraîne son lecteur par le biais des émotions, justement. Kevin Itter ?
Peut-être un argument supplémentaire serait aussi le caractère très genré de cet objet, qui fait que, comme c'est féminin aussi, c'est beaucoup moins inspecté, étayé, investi que d'autres, mais comme l'étaient au départ les études sur le genre, sur les enfants, etc. quoi.
Et ça vaut uniquement pour la France ou c'est en général dans la recherche sociologique ?
Aux États-Unis, les émotions se sont mises en place tout à fait dans le même champ aussi, et elle s'est beaucoup appuyée sur des hommes et deux femmes, enfin, notamment Peggy Toit et Harley Hochschild, pour se développer. Et c'était aussi dans un contexte particulier. Ils se sont quand même aussi beaucoup battu contre la sociobiologie, etc. Et c'était pas le même contexte, mais en tout cas, ça a été très féminin aussi, très féminin. Mais ça l'est encore. Hein. Aujourd'hui, les principales autrices sont des chercheuses, pas des chercheurs. Mais après, ça, c'est pas tout à fait le même champ. Ils ont un peu moins oublié, mais c'est aussi parce qu'ils ont été plus pris du côté du travail, qui était quand même une posture beaucoup plus légitime. Travail et santé.
Oui, c'était le travail émotionnel. C'était ça, l'approche.
Pour Hochschild. Et pour Peggy Toit, c'était d'un point de vue santé, elle a beaucoup travaillé sur la déviance émotionnelle. Et ça aussi, notamment du point de vue des enfants qui pouvaient avoir un handicap, et sur ça, sur comment se transmet quand même ces normes, etc. Mais c'était aussi rattaché, en fait, c'est marrant, elles sont beaucoup plus citées dans le champ de leur sociologie respective du travail et de la santé qu'en France, y compris dans les sociologues des émotions. Quand on lit les bouquins actuels de Louis Quéré, de Julien Bernard, elles sont là, mais elles sont réduites à une petite part quand même, parce que ils sont pas aussi développés que pourrait l'être, je sais pas, à la place de Durkheim, de Weber ou des autres Durkheimiens. Mais je pense que c'est aussi lié à cet état du champ.
Alors, je propose qu'on écoute la chronique d'Héloïse Marguerite, étudiante à l'ENS de Lyon.
Pour saisir ce que chaque enfant a comme bagage au moment où il entre à l'école, on peut s'appuyer sur la notion de capital culturel, une notion développée par le sociologue Bourdieu dans les trois états du capital culturel, notamment en 1979. Le capital culturel renvoie aux formes culturelles et aux outils cognitifs que les familles transmettent à leurs enfants. Maintenant, on peut se dire que la notion de capital émotionnel, dans cette même veine, renvoie à la transmission par les parents de règles quant aux émotions que l'on peut exprimer, quand et de quelle façon. Plus précisément, pour Bénédicte Gendron, chercheuse en sciences de l'éducation, le capital émotionnel serait constitué par des compétences émotionnelles par lesquelles les enfants pourraient se développer et nouer des relations sociales. Ces compétences émotionnelles sont de l'ordre de la conscience de ses émotions, de la maîtrise de ses émotions, de la conscience des émotions des autres et de la gestion des relations, selon les psychologues Daniel Goleman et Carit Chernis en 2001 dans The Emotionally Intelligent Workplace. Il faut resituer ces notions de capital émotionnel et de compétences émotionnelles dans le cadre plus large des soft skills. Ce sont les attributs personnels qui permettent à quelqu'un d'interagir efficacement et harmonieusement avec d'autres personnes, selon le dictionnaire d'Oxford. Les soft skills ont été théorisés à partir des années 1970, mais pour des raisons d'abord pratiques, si bien que leur scientificité fait question. En tout cas, par extension, différentes compétences psychosociales ont été mises au jour. C'est la capacité d'une personne à faire face efficacement aux exigences et aux défis de la vie quotidienne, selon l'OMS en 1990. Certaines de ces compétences sont cognitives, d'autres sociales, d'autres émotionnelles enfin. Et donc ces dernières recoupent les compétences émotionnelles et donc le capital émotionnel qui font l'objet de cette chronique. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, on peut se demander ce que permet de penser la notion de capital émotionnel quand elle est appliquée à l'école. L'idée est alors d'essayer de pointer qu'il y a des effets de classe sociale sur le capital émotionnel d'un enfant, et plus précisément sur sa capacité à rationaliser ses émotions et à adapter l'expression de ses émotions à la situation scolaire. C'est ce que pointe le sociologue Alban Midzi dans un article de 2022 dans l'Orientation scolaire et professionnelle. Selon lui, dans les familles de classe moyenne et supérieure, on connaîtrait mieux et on maîtriserait mieux les attendus scolaires en termes de comportement et d'apparence émotionnelle. Il y aurait ainsi des privilèges de classe pour se conformer aux attentes de l'école et de la société de ce point de vue. C'est pour cette raison qu'il est essentiel de ne pas tout psychologiser, mais bien de prendre en compte le contexte social, culturel, économique dans lequel les familles s'inscrivent, pour ne pas renvoyer une quelconque faute ou difficulté à une responsabilité des individus et en particulier des parents. Et aussi à l'inverse, la situation sociale d'une famille peut être décorrélée du capital émotionnel de l'enfant, puisque donner de l'amour et de la sécurité affective à son enfant n'est pas du tout une question de classe sociale. Une autre question est de chercher dans quelle mesure le genre des élèves détermine leur capital émotionnel. Dans un article de 2007 pour Éducation et socialisation, Bénédicte Gendron fait l'hypothèse qu'il y a un capital émotionnel genré. Ce capital ne défavorise pas les filles en termes de performance scolaire, au contraire. Mais il détermine les différences d'orientation scolaire entre filles et garçons, et plus tard, il détermine la moins bonne réussite des femmes sur le marché du travail. La société tendrait à rendre les filles plus dociles, plus attentives et plus empathiques, mais avec moins d'estime de soi que les garçons. Les enseignants auraient aussi tendance à davantage interroger les garçons pour les canaliser, mais cela les rendrait plus confiants en eux et plus compétitifs. À l'heure de l'orientation dans le supérieur, avec ce capital émotionnel genré, les garçons seraient mieux préparés pour envisager des filières élitistes, compétitives, notamment scientifiques, et les filles s'orienteraient davantage vers des filières d'humanité ou des filières à caractère social. Une fois qu'on a élucidé ces possibles apports de la notion de capital émotionnel, il faut s'intéresser à une critique importante contre cette notion, en raison de ses usages dans les approches managériales. Le capital émotionnel, on l'a vu, est souvent décrit à travers des compétences émotionnelles comme la capacité à gérer ou à maîtriser ses émotions, en mettant en avant les émotions positives et en régulant les émotions dites négatives, donc autant d'éléments qui permettent de s'affirmer comme efficace, coopératif et non contestataire, puisque les difficultés qu'un individu rencontre sont réduites à des questions psychologiques. Et en clair, tout cela sert des formes de docilité au bénéfice des entreprises. Dans leur ouvrage « Apicratie » en 2018, les sociologues Eva Illouz et Edgar Cabanas suggèrent que le fait de privilégier les compétences émotionnelles des élèves revient à les former comme de futurs entrepreneurs ou de bons travailleurs, faciles à manager, et non pas comme des individus éduqués et capables de se repérer dans le monde avec un esprit critique et des valeurs affirmées.
Merci Louise pour cette chronique. Alors, on a balayé un certain nombre d'objets et de questions. Kevin Litter, quelle serait votre réaction à cette chronique d'Héloïse ?
Tout d'abord, je la trouve très complète. Donc, elle a été vraiment recherchée. Et surtout en ce moment, c'est important parce que les compétences psychosociales sont devenues de plus en plus importantes et une place. Là, la circulaire interministérielle, enfin, qui s'appelle instruction, pas circulaire, vient de remettre au centre de 8 ministères les CPS, donc compétences
voilà, psychosociales. Voilà, on en avait parlé avec Claude Martin, justement, quand on avait fait l'émission sur le bien-être, justement.
Et effectivement, la notion qui va avec sont généralement donc, les compétences, les CPS sont au nombre de 3, donc émotionnelles, cognitives et sociales ou relationnelles, ça dépend, ils changent parfois les noms, mais... Donc après, elle a essayé de faire aussi le pont avec les compétences émotionnelles, ce qui est aussi un autre, enfin, le capital émotionnel aussi, qui est une autre revue de littérature. Mais effectivement, en fait, il y a beaucoup de... En fait, c'est un peu comme dans n'importe quelle sous-discipline sociologique, il y a aussi une inflation de la terminologie pour aborder un point. Et effectivement, donc, et comme il y a eu franchement, en termes de capital, au début, chez Bourdieu, il y en avait 4. Maintenant, dans un article fait par Eric Neveu, qui montrait qu'il y avait jusqu'à 20 capitaux maintenant, y compris le capital érotique, le capital émotionnel, etc. Et que pour lui, c'était juste une forme diversifiée de capital culturel. Peut-être pas aller jusqu'à là, parce que je pense que Diane Rae, qu'on cite dans l'ouvrage, qui est une sociologue britannique de l'éducation, qui est très importante là-haut, a montré aussi le rôle du capital émotionnel dans la réussite des enfants de classe populaire. Et donc là, c'était plutôt sur la prise en charge des enfants. Des enfants par les mères, notamment. Donc tout ça est intéressant, mais ça, en fait, c'est vraiment une très large littérature qui a aussi pour, notamment, quand le titre Gandron, c'est ça aussi, c'est qu'elle a été aussi investie par des psychologues et qui ne lui donnent pas la même signification et qui ont une perspective qu'on pourrait dire un petit peu, mais comme elle le dit, dans le sens de créer des personnes aptes à faire, mais c'est vraiment ethnocentré, en fait. Le capital, leur capital, c'est, il y a une bonne définition de ce que vous devrez être une bonne émotion. Et c'est là, à mon sens aussi, le danger, parce que ça voudrait dire que les autres soit ont des mauvaises émotions, des émotions qui seraient mises comme négatives, et tout en décontextualisant les raisons. Mais généralement, c'est parce qu'ils sont dans un rapport de domination, de subordination, etc. Et effectivement, c'est pour délégitimer toutes les revendications qu'ils pourraient avoir contre leurs conditions d'existence. Et elle a réussi à retracer ça, et je suis assez d'accord avec le constat fait par Héloïse. Et j'aimerais juste ajouter quelque chose, c'est de montrer en fait qu'on peut, à mon avis, questionner les CPS pour en faire aussi un objet pas seulement prescriptif, mais aussi d'analyse pour résoudre des conflits ou en tout cas pour comprendre des situations d'interaction qui seraient inégalitaires dans la mesure où, en fait, en comprenant les règles de l'interaction et les émotions qui s'y jouent, on peut voir aussi ce qu'il est attendu quand on est dans une position dominante, dominée, et qu'est-ce que ça fait. Et en fait, ce serait comme nous être utile pour être dans une vraie philosophie du care et d'une, comme pourrait dire d'autres, notre philosophe que j'aime beaucoup, c'est pour pouvoir participer en tant que père, la parité de participation, qui est un concept de Nancy Fraser, qui disait que c'était le véritable moyen d'arriver à une égalité en prenant en compte tous les rapports de domination, qu'ils soient de classe, genre et race, etc., etc. C'est pour pouvoir faire en tant que père, il faut qu'il y ait en fait un double processus de reconnaissance et de redistribution. Et pour ça, et notamment pour l'aspect reconnaissance, c'est de fait les compétences psychosociales, si elles sont armés de la sociologie et de toute l'analyse en termes de règles, de sentiments, de normes émotionnelles, etc. et de aussi d'analyse interactionniste comme perdre la face. Ça peut nous aider à comprendre en fait comment se produisent les rapports de domination dans les interactions et justement essayer à les diminuer ou en tout cas apprendre à faire en sorte que les rapports soient moins forts. En tout cas, après, je ne sais pas.
Et ça rejoint un petit peu ce qu'on disait depuis tout à l'heure entre l'individu, parce que l'approche des compétences psychosociales pourrait avoir une approche très individuelle, individualiste, sans, comme vous venez de le souligner, sans prendre en compte le global, le social, le contexte, etc. etc. Alors peut-être que je finirai sur cette chronique, encore une fois, qui balaye plusieurs types de questions. Je pense qu'il y en a une qui pourrait retenir votre attention. Je ne sais pas si c'est l'orientation, ce genre de choses, mais la place des filles et des garçons dans les études et dans l'orientation et le choix de filière, oui. Par exemple. Hein.
Oui, oui, je voulais rebondir sur ce que pointe Héloïse. Donc, effectivement, la distinction genrée, la socialisation genrée en émotion. Et moi aussi, j'ai trouvé que la chronique était très claire, montrant bien la progression. De la façon dont on peut appréhender le concept de capital émotionnel. Alors effectivement, moi j'avais envie de réagir sur deux choses, peut-être à partir de ce qu'elle disait, revenir quand même sur les apports des travaux d'Arlie Hochschild en fait, parce que au début Héloïse parle de la conscience de l'émotion, la reconnaissance de l'émotion chez les autres personnes, etc. Et moi je sais que la lecture des travaux d'Hochschild, ça a révolutionné quelque chose en moi, mais vraiment il y a eu une sorte de déclic, et je pense que c'est ça aussi qui a fait que je me suis vraiment intéressée aux émotions, parce que c'était la première fois où je lisais, continuant le programme de Zofman, où elle montre comment effectivement on est socialement élevé, historiquement élevé à reconnaître des expressions des émotions. Donc voilà, c'est ce que montre un petit peu cette chronique. On va apprendre à reconnaître ou à manifester l'émotion qu'il faut avoir à tel ou tel moment. Effectivement, quand je suis en classe, je dois avoir une maîtrise de mon expression, etc. Mais Hochschild, elle va encore un peu plus loin. Elle dit qu'on apprend aussi à ressentir, en fait. Et donc, pas seulement à exprimer, mais aussi à ressentir et donc à avoir l'expérience des émotions. Et je trouve que ça, c'est vraiment important aussi dans cette notion de capital émotionnel. Est-ce que c'est juste apprendre à exprimer quelle émotion et de la bonne façon, à quel moment, etc. ou apprendre aussi à ressentir l'émotion qu'il faut.
Et c'est là où elle évoque aussi la question de l'alignement ou le désalignement des normes, en fait.
C'est exactement.
Dans l'interaction.
Voilà. Et je pense que du coup, c'est par là où on peut vraiment toucher à ce que montre Héloïse, notamment dans sa chronique, sur cette socialisation genrée aux émotions et comment on va être socialisé aux émotions, socialisé par les émotions, et ce qu'elle montre sur cette situation des filles qui apparemment seraient les mieux socialisées à l'expérience scolaire et au déroulement de l'école, où il faut apprendre la docilité, l'écoute, etc. On voit comment, et ça on le voit dans tous les travaux sur l'éducation et sur en sociologie de l'éducation, sur les orientations genrées. On voit comment un moment, finalement, ça les pénalise. Parce qu'effectivement, il faut être docile, etc. Mais après, on va reprocher de ne pas être assez ambitieuse, de ne pas avoir assez d'allant, de ne pas être assez innovante, inventive. Et c'est très classique, mais on va leur reprocher d'être trop scolaire, ce qui est quand même dingue pour une institution scolaire. Donc, je trouvais, c'était vraiment intéressant qu'elle, dans cette chronique, qu'elle déploie un peu tous ces aspects qui en fait sont ceux pour lesquels moi j'ai eu envie de travailler sur les émotions en sociologie.
Voilà, et ça rejoint votre chapitre qui s'appelle « De mémoire, dis-moi ce que tu ressens, je te dirai qui tu es, les émotions comme sens de sa place ». Voilà, et comment ça se construit, ça, en fait, et comment ce n'est pas forcément quelque chose qui est lié à un individu, mais qui est bien quelque chose qui est construit collectivement. Et Kevin Dieter, vous observez ça dans votre travail autour des tout-petits. On retrouve cette question du genre, hein, d'ailleurs, comment finalement ces tout-petits, on peut parler des ados, ce que vient faire Christine Détré dans les processus d'orientation ou d'appétence scolaire par rapport à des filières ou des disciplines scientifiques ou littéraires. Mais vous observez ça chez les tout-petits. Et votre thèse portait sur l'enfance des sentiments, justement. Et comment vous observez ces mêmes questions, j'allais dire, dans un espace qui n'est, où finalement, on est assez pudique, on les étudie peu, en fait, où on en tient un peu compte.
Effectivement, aller faire des enquêtes de terrain auprès d'enfants pour savoir comment ils apprennent à aimer, c'est assez rare. On a dû être... une dizaine de chercheurs, je dirais, États-Unis, Australie compris, à faire vraiment chez les enfants-là, mais d'un point de vue sociologique. Hein, j'entends parce que d'autres en psychologie sont intéressés avec peut-être une approche un petit peu ce qu'on appelle adulto-centré, c'est-à-dire à quel point les enfants arrivent à développer les représentations des émotions telles que les ont les adultes, et notamment les adultes référents qui sont généralement des adultes blancs des classes moyennes, quoi. Donc, effectivement, moi, je me suis intéressé dans ma thèse, donc c'était pas des tout petits, ils étaient en élémentaire, donc c'était des 6-11 ans, et j'ai essayé de voir la place de l'amour, et c'est là où moi j'ai rencontré Harley Hochschild, pas avant. Moi, j'y suis arrivé un peu parce qu'elle, un de ses premiers articles, en fait, était sur l'amour. Enfin, elle avait fait une enquête auprès de ses étudiants de Berkeley. Et c'était assez intéressant, je me suis dit, c'est trop bien. Et puis, elle parlait justement d'un concept qui, moi, m'a intéressé, mais qui a été un peu moins développé en France par rapport au travail émotionnel, mais qui va avec et qui est central, c'est les règles des sentiments. Les règles des sentiments, c'est vraiment, en fait, il y a des règles pour les garçons, pour les filles, c'est pas la même chose, quoi.
On y reviendra, mais je pense que pour le crush, c'est pareil.
Oui, ça, Christine vous dira.
Ouais, on dira.
Mais oui. Effectivement, et donc là, moi, je les vois petits, ils parlent pas trop de crush, c'est amoureux, amoureuse, c'est pas leur, et puis même sortir ensemble, pour eux, c'est un concept qui est assez étranger, dans la mesure où ils ne peuvent pas sortir tout court, donc sortir avec quelqu'un, c'est encore beaucoup plus dur, mais en tout cas, il y a cette, là où j'ai vu, c'est autant ils arrivaient à définir de manière qu'on pourrait dire très adulte l'amour, vis-à-vis de l'amitié, qu'est-ce que ça implique, etc., avec dans une vision très hétéronormative, avec un homme, une femme, là où il y a le centre de l'amour, c'est qu'ils arrivent à faire des enfants, qui, eux, sont les représentants de leur amour. Mais ce qui était intéressant, c'était vraiment sur l'apprentissage de la gestion des émotions et de la mise en mots. Et là, c'était assez, même ne serait-ce que pour prendre juste deux chiffres. Le premier chiffre, c'est le nombre d'amoureux entre les filles et les garçons, quoi. Même s'ils sont tous pour la polyamorie, les filles en ont 3 à 4 fois plus que les garçons. C'est quand même beaucoup. Les garçons, s'ils en nomment une ou deux, c'est beaucoup. Les filles sont plutôt jusqu'à 6. Moi, j'ai vu jusqu'à 9. Et aussi, autre chiffre, c'est pendant que je faisais les entretiens avec elle et eux, c'était la durée des entretiens. Avec les garçons, en moyenne, ça durait 1h45. Avec les filles, c'était plutôt aux alentours de 4 heures. Et sachant que sur les 1h45 avec les garçons, pendant 1h30, je parlais principalement d'amitié. C'était 15 minutes, alors que les filles, 15 minutes, c'était juste l'introduction. Elles me listaient juste les amoureux qu'elles avaient eus, quand est-ce qu'elles les avaient eus. Et en fait, là-dedans aussi, on voit tout l'effet de la socialisation, parce qu'il y a la mise en mots, mais aussi le sentiment d'être autorisé à ressentir ce sentiment-là, quoi. Et qui, pour les garçons, c'est une insulte. C'est une insulte dans la cour de récré. Oh, le peureux, il est amoureux. On leur dit, moi, les garçons, les moments où je les ai plus pleurer en dehors de quand ils se battent, c'est vraiment aux alentours de la Saint-Valentin parce qu'ils se sont fait traiter d'amoureux, quoi. C'était pour eux la pire insulte qui puisse exister parce qu'ils transgressaient à la fois une norme de genre et une norme d'âge. L'amour est pour les adultes, pas pour les enfants, et pour les femmes, pas pour les garçons ou pour les hommes. Et chez les filles, c'était pas tout à fait pareil. Chez les filles, ce qui pouvait les embêter, c'est pas qu'on les traite d'amoureuses, c'est qu'elles soient amoureuses d'une mauvaise personne. On s'attend d'elles qu'elles soient amoureuses et qu'elles placent au centre de leur vie les garçons, hein, en l'occurrence. Parce que c'est... Donc voilà. Moi, j'ai plutôt à analyser ça sur la construction. En fait, moi, j'étais plutôt vraiment sur les règles des sentiments de Hochschild et sur la manière dont, en fait, les enfants jouent soit en surface, soit en profondeur pour correspondre à ce qu'on attend d'eux. Le fait de pas être amoureux, donc les garçons, en fait, devaient aussi, comme ils savaient qu'ils pouvaient, même ceux qui se sentaient autorisés, notamment dans les milieux supérieurs, parce que l'amour a aussi une classe sociale, c'est-à-dire qu'il est plus valorisé chez ceux qui ont beaucoup de capital culturel parce que ça fait partie du bien-être des enfants, en fait. Donc, il le développe aussi chez les garçons comme chez les filles. Enfin, en tout cas, c'est un peu moins genré que dans les autres. Et même là, les garçons hésitaient parce que, et devaient travailler sur leurs émotions parce que c'était quelque chose qui était mal vu. Encore une fois, on pouvait se moquer, ça pouvait faire perdre son rang, parce que quand on fait une activité de fille, on devient fille, PD. Voilà.
Alors, une petite question, parce que le contexte institutionnel fait qu'il y a un programme qui s'est développé au sein de l'institution scolaire EVARS, qui touche en particulier à la vie affective, alors qu'il est décliné selon les niveaux d'âge et les classes, évidemment. Comment c'est l'éducation à la vie affective relationnelle et à la sexualité. Donc, je pense que pour les tout-petits, le dernier mot n'est pas au centre du sujet, mais on touche bien à ce qu'on vient de dire, enfin, ce que vous venez de développer sur la vie affective et relationnelle. Comment ce programme-là, vous le percevez, puisque vous enseignez aussi auprès d'enseignants, futurs enseignants? Comment vous situez par rapport à ce programme-là?
J'ai une relation ambiguë, on va dire.
Ou comment vous le voyez? Voilà. Il y a une intention, en tout cas, qui vient de loin, parce que cette question-là, moi, il y a une quinzaine d'années, on avait lancé les ABCD de l'égalité. On sait ce que c'est devenu assez rapidement, de prise dans une spirale infernale où se mélangeaient plusieurs choses, et notamment des rivalités politiques, peu importe, mais où cette question du genre avait été mise sur la table. On n'était pas sur la vie affective, mais cette question-là, et on l'a un peu évacuée ou complètement évacuée. Et là, c'est un peu d'une autre manière de revenir sur ces questions à la fois de genre, du relationnel et de la sensibilité dans l'école, et de la prise en compte, voilà, à travers un programme et une éducation à ces questions-là.
Ouais, mais après, c'est pas neuf, hein. La loi sur l'éducation à la sexualité, ça date de 2001, quoi. Faut pas l'oublier, ça fait plus de 20 ans.
Je parlais de l'aspect affectif et relationnel. Je parlais pas de l'éducation à la sexualité. Voilà.
Là, maintenant, ils appellent ça EVARS. Pendant un moment, ils appellent ça éducation à la sexualité. En fait, l'EVARS est c'est une nouvelle manière de mettre ce qui était avant en compte, comme l'éducation à la sexualité. C'est toujours pour faire trois cours par tranche d'âge, depuis la maternelle jusqu'au lycée. C'est ça le but de l'EVARS, de l'éducation à la sexualité, peu importe le nom que ça a. Effectivement, la sexualité a été évacuée du programme de primaire, donc maternelle et élémentaire, dans la mesure où ils avaient peur du lever de bouclier des parents. Et ce qui n'a pas manqué, même là, même quand l'État a fait disparaître le S, la DGESCO sur... Il y a eu toujours des mobilisations. J'en ai été témoin parce qu'il y avait une journée d'études à la DGESCO dans laquelle j'étais invité, et les collègues me disaient qu'ils avaient déjà eu, notamment dans les arrondissements 7, 8, 16, des mobilisations des parents sur ce sujet-là, parce qu'on allait encore une fois apprendre à leurs enfants à se masturber, etc. Mais alors, moi, il y a deux choses qui me gênent. Donc, l'idée d'éducation à la vie affective et relationnelle, je trouve ça très bien, notamment parce qu'on apprend aux enfants l'empathie, on apprend aussi quelque chose qui est important maintenant, le consentement. Donc ça, pour l'égalité, l'égalité fille-garçon, et notamment aussi pour éviter tout ce qui est les violences sexistes et sexuelles, c'est indispensable. Et le faire dès le premier âge, je trouve ça très, très bien. Par contre, en fait, la sexualité, et c'est ça qui me gêne dans le programme du premier degré. Donc, ils ont évoqué la sexualité. Donc, c'est en fait le sous-entendu hétéronormatif est toujours présent. C'est-à-dire, on leur parle pas de. En fait, on a le droit de leur parler d'amour si c'est un amour hétéro. Si c'est un amour homosexuel, non. ils sont considérés comme trop petits. Donc l'homosexualité est considérée comme quelque chose de trop grave, j'imagine, pour être abordé, ou en tout cas trop compliqué pour être abordé avec des petits, alors qu'on ne se pose même pas la question sur les comptes, et on va leur faire encore une fois des comptes sur l'hétérosexualité. En voiture, voilà, ils auront plein de princesses et de princes charmants qui vont... Et en fait, c'est là où je trouvais ça assez gênant, en fait, le fait d'évacuer, de penser que les petits et les plus petites, en fait, ça revient sur mettre le sceau de l'illégalité, de l'homosexualité ou toutes les sexualités qui ne seraient pas hétérosexuelles, et ça me gêne un petit peu quand même.
Alors, Christine Détrel, qui vous intéressez moins aux petits et plus aux grands ou aux jeunes aux vieux adolescents ou aux jeunes adultes, est-ce que vous retrouvez cette question des normes, cette question du genre, cette question de la vie affective et relationnelle? Alors, on ne va pas s'étendre sur la question du crush parce qu'il faudrait une émission entière pour en parler, mais de cet espace d'observation qui est plutôt, j'allais dire, informel, c'est du relation qui n'est pas regardée depuis l'institution. Comment vous voyez en complémentarité avec ce que vient de dire Kevin Dieter?
Ben, c'est vraiment dans la continuité, c'est-à-dire que ce que disait Kevin sur le fait que les filles, parce qu'elles sont des filles, doivent s'intéresser à l'amour, aux sentiments et aimer l'amour, et que à l'inverse, les garçons, donc là, moi c'était plutôt des lycéens et jeunes adultes, ces jeunes hommes, parce qu'ils sont des garçons ou des jeunes hommes, ne devraient pas s'y intéresser. Moi, c'est retrouvé vraiment dans les cours de récréation des lycées, et je ne suis absolument pas la seule, hein. Ça s'inscrit vraiment aussi dans la continuité des travaux d'Isabelle Terre. Alors, une fois qu'on a dit ça, il faut bien évidemment nuancer. Il n'y a pas de garçons et de filles, on est garçons ou filles de tel ou tel milieu social, etc. etc. Et quand j'ai fait des entretiens avec des jeunes adultes, des jeunes hommes, ben, je voyais bien comment, quand je parlais à des jeunes hommes fortement dotés en capitaux culturels, travaillant plutôt dans les milieux du théâtre, du cinéma, etc., j'avais pas du tout les mêmes propos que des jeunes hommes orientés dans d'autres filières ou moins dotés en capitaux culturels ou allant plus vers des orientations qui les doteraient davantage en capitaux économiques, en fait. Donc, tout ça pour amener de la nuance, hein, bien évidemment. Mais en revanche, ce que dit Kevin sur les règles des sentiments, bien évidemment, on en voit l'effet et la socialisation, toujours. Et moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de travailler justement sur ces moments d'articulation entre ces règles de sentiment telles qu'on les a héritées, en fait, hein, depuis avant que le mot crush existe, depuis qu'on parlait de flirt, etc. Et qu'est-ce que fait l'évolution par exemple, on parle beaucoup du post-MeToo, donc on va un peu vite parfois à dire post-MeToo, mais qu'est-ce que c'est ce post-MeToo dans l'évolution de ces normes, de ces règles des sentiments, et comment elles s'articulent avec celles auxquelles on a été traditionnellement socialisés. Enfin, je pense que ça serait vraiment un programme de recherche que moi j'aimerais continuer. Voilà.
Eh bien, je vous remercie tous les deux pour cet échange autour de votre ouvrage qu'on a parcouru, et on est un peu sorti aussi de l'ouvrage en tant que tel, mais pour parler d'un sujet qui le méritait aussi. Donc, Ça manque pas d'air, une émission de Régis Lyon. Elle a été préparée avec la collaboration donc Héloïse Marguerite, étudiante à l'ENS de Lyon, à la réalisation Sébastien Boudin, au mixage Laurent Gaillard de Réseau Canopé. On se retrouve en décembre pour une émission qui abordera un tout autre sujet, puisqu'on recevra Clémence Cardonquin et Jean-Paul Delahaye pour parler de l'argent de l'école. Et vous retrouverez ce podcast, comme tous les autres, sur le site de l'IFE de l'ENS de Lyon et sur toutes les bonnes plateformes de podcasts.